en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Elisabeth Antebi.
Alors Frédéric Vitoux, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons pour un habit vert, c'est-à-dire pour un portrait de l'académicien que vous êtes. Vous êtes surtout, alors d'abord, un passionné de cinéma. J'ai découvert que vous étiez plus passionné que vous n'êtes connu pour l'être, et de littérature, puisque vous avez fait l'IDEC.
J'ai préparé l'IDEC, et c'était ma première vraie passion. La littérature a toujours occupé, bien entendu, un rôle important dans ma vie, mais mes études secondaires étaient des études de mathématiques. J'étais inscrit en mathématiques supérieures, en classe de mathématiques supérieures après un bac mathélème. Et dans l'idée de mes parents, j'étais le matheux de la famille. J'avais un frère aîné qui était le littéraire, moi j'étais le matheux. Et j'ai préparé Mathsup pour faire les grands concours. Et malheureusement, mon niveau en mathématiques était quand même assez limite et je me suis rendu compte que je serais pas très heureux. Et brutalement, alors que j'étais en Mathsup, j'ai dit à mes parents, j'arrête tout, je prépare une école de cinéma qui est l'Institut des hautes études cinématographiques qui maintenant a été remplacé par la FEMIS. Mes parents étaient un petit peu stupéfiés, naturellement.
Ça faisait mauvais genre.
Mauvais genre, non, mais mes parents étaient des gens qui souhaitaient pour leur fils un avenir prévisible et rassurant et des études scientifiques. L'ingénieur était prometteur. L'avenir d'un cinéaste était problématique, il n'avait pas tort. Et j'ai préparé l'IDEC et je me suis passionné. C'est durant cette année-là, je dirais avec des professeurs exceptionnels, j'ai découvert l'art, j'ai découvert la littérature avec une passion. Et j'ai découvert surtout un truc idiot, c'est que la littérature n'était pas faite uniquement pour être enseignée en classe comme une matière revêche, mais c'était quelque chose de vivant, tout simplement.
Jusqu'alors, c'était revêche.
Jusqu'alors, c'était des sujets de classe. Bien sûr, j'avais les livres que je lisais, que j'aimais, mais qui étaient à part. Et pour moi, la grande littérature, la haute littérature, c'est ce qui relevait du domaine scolaire. Pour moi, Racine, Molière, Corneille, Voltaire, Beaumarchais étaient des auteurs de classe. Et je ne soupçonnais pas que Corneille était prodigieusement vivant et qu'il écrivait des pièces de théâtre pour être joué, pour être apprécié, qu'il y avait une jeunesse, qu'il y avait une folie. Et d'un seul coup, j'ai découvert ça. C'est bête, c'est idiot, c'est une évidence, c'est un truc, c'est tout ce que vous voulez. Et j'ai eu cette passion-là.
Vous n'avez jamais abandonné cette composante, puisque vous avez écrit dans Positif.
Voilà.
Et puis, vous avez aussi fait les scénarios d'un film. Je ne savais pas du tout que c'était vous qui aviez fait le scénario d'un film que j'aimais bien, que je regardais avec ma fille, qui est le film d'Hector Malou,
Sans famille. Oui, en fait, si je n'ai pas continué dans le cinéma à cette époque-là, et si après avoir fait cette école de cinéma, j'ai fait aussi un doctorat de lettres, enfin une licence et doctorat, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'en tant que metteur en scène, je n'avais pas les qualités suffisantes. J'étais probablement quelqu'un de trop individualiste, trop angoissé, trop solitaire, trop peu esprit d'équipe, trop peu bagarreur pour décrocher des contrats, etc. Et que donc, si un jour j'en venais au cinéma, ce serait sans doute par le biais de l'écriture. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des études de lettres et que tout s'est enchaîné très vite. C'est-à-dire que j'ai fait une thèse de doctorat de lettres sur un écrivain qui était à l'époque totalement négligé de l'université. Sur
lequel qui n'était même pas encore sulfureux, qui était négligé.
Parce qu'il était sulfureux, surtout, c'était Louis-Ferdinand Céline, qui était mort en 61. Et en 68, je décide de faire une thèse de doctorat. Je suis le premier universitaire à faire un travail sur Céline. Naturellement, je ne trouvais aucun professeur qui connaissait l'écrivain et qui puisse m'aider. Donc le professeur tout à fait estimable que j'ai eu m'a dit « Je vous laisse libre de faire ce que vous voulez, je ne connais pas le sujet ». Et j'ai fait ce thèse de doctorat et s'est enchaînée la publication du doctorat un peu remanié chez Gallimard.
Vous avez consacré à peu près, je crois, 4 livres à Céline.
Oui, en fait, ça m'a occupé ma thèse de doctorat. Puis, vous savez, comme j'étais le premier célinien en quelque sorte, très vite, on vous catalogue. Ça, c'est l'esprit bien français. Et pourquoi pas de vous donner des étiquettes. Et parmi mes étiquettes, il y avait célinien. Et donc, très souvent, des éditeurs s'approchaient de moi pour me demander un livre sur un sujet ou sur un autre. Et c'est comme ça qu'après avoir fait cette thèse de doctorat, j'ai écrit presque en boutade en réponse à un éditeur qui me demandait d'écrire une vie
Weber.
De Céline. Voilà. Et j'avais...
Weber, faut dire aux éditeurs, voilà. Évidemment, que c'est le chat.
Voilà. Et c'était une boutade à l'origine. Oui. C'était Jean-Claude Fasquelle, le directeur de patron de Grasset avec Bernard Privat à l'époque, qui m'avait demandé de faire une vie de Céline. J'ai répondu, oh non, j'ai pas le temps, je suis pas encore assez prêt, mais pourquoi pas une vie de son chat? C'était vraiment la boutade. Et puis, j'ai pensé que c'était en fait un très, très bon sujet de parler de la vie du chat de Céline, car ça permettait d'aborder la deuxième partie de la vie de Céline, qui n'avait pas été abordée dans ma thèse. Et puis, c'était un personnage haut en couleur, hein. un grand personnage romanesque, un des grands personnages romanesques de la
littérature
française.
Mais alors, les chats, vous y êtes resté puisque vous avez écrit un autre livre sur les chats.
Alors, j'ai écrit un autre livre sur les chats. Et même si vous voulez tout savoir, je prépare et je finis. Là, un livre qui va sortir sans doute fin septembre de l'année prochaine, un livre de 900 pages, Le dictionnaire amoureux des chats.
Ah, mais collection. C'est génial.
Alors là, il y aura tout. Les chats dans la peinture, dans la littérature, au cinéma, les chats de ma vie, l'histoire des chats, les chats et les écrivains, les chats et le silence, enfin tout. Tout ce que j'ai trouvé.
Les femmes chats.
Ah bah oui, parce que le chat, justement, dans la symbolique, est souvent associé aux femmes, à la sensualité. D'où le côté parfois sulfureux du chat.
Vous aimez bien le sulfureux, finalement?
Non, je crois pas.
Pour un homme, si, apparemment, si poli.
Je suis quelqu'un de très casanier, par un côté, de très conservateur.
Ah bah, comme les chats.
Comme les chats. Je suis comme les chats, voilà. J'avais jamais pensé, mais vous m'y faites penser, je vous remercie. Je suis un animal territorial. Le chat tient à son territoire avant de tenir aux compagnons avec lesquels il vit. Et moi, je suis territorial. Je n'ai jamais quitté l'île Saint-Louis de ma vie. Je n'ai jamais quitté l'appartement où je suis né. Je continue à vivre dans les mêmes décors et j'en suis très heureux. Et pour moi, quitter l'île Saint-Louis, franchir la Seine, venir sur le continent, avoir la chance, par exemple, de vous parler aujourd'hui, c'est un effort car c'est aller à l'étranger.
Nous sommes sur la même rive.
À la même rive, ça se discute parce que moi, je suis dans une île et vous êtes sur le continent. La seule chose qui me rassure, c'est que quand je vais à l'Institut, je me dis, bon, ça a été construit par Louis Levaux et que j'habite la maison de Louis Levaux, donc je garde quand même la même atmosphère.
Alors, il y a une autre passion dans votre vie ou un autre grand sujet, disons, dans votre vie, c'est bien sûr votre père. Puisque non seulement vous lui avez consacré un livre, enfin l'ami de votre père, mais vous en parlez, et c'est assez très touchant, dans votre discours de réception à l'Académie française.
Parfaitement.
Et vous dites que lui qui a construit tant de châteaux en Espagne vous a construit une coupole. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment?
Oui. Si vous voulez, c'est assez curieux, c'est que souvent, pour un romancier, un écrivain, les premiers livres sont des livres de délivrance où l'on parle de sa famille, où l'on parle de son enfance, où l'on règle leurs comptes. Ce n'était pas du tout mon cas. Mes premiers livres, pendant longtemps, étaient des livres de fiction, de construction, d'imagination. Et j'avais du mal à parler assez près de mes souvenirs familiaux, assez près des personnages qui ont compté pour moi. Et Dieu sait que si les parents comptent pour un enfant, pour quelqu'un qui va devenir un adulte. Et j'ai mis beaucoup de temps à écrire sur mes parents, peut-être parce que mes parents étaient des gens très pudiques, très réservés. Et au fond, je sentais en eux une sorte de terreur inavouée à l'idée que leur fils, écrivain, un jour dévoile, non pas des secrets de famille, il n'y avait pas beaucoup de secrets de famille, quoique...
Il y en avait un gros, quand même.
Qui n'était pas un secret, mais qui était plutôt quelque chose qui n'était pas évoqué dans les épreuves que mon père avait connues. Et puis, à la mort de mes parents, d'une certaine manière, j'étais délivré. Et j'ai pu parler, avec des masques plus ou moins vraisemblables, de mes parents. Et parmi les obsessions de mes parents, et j'en reviens à la question sur l'Académie française, mon père, qui était un rêveur, qui avait eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui avait des déceptions, etc., quand il a vu que je me destinais à devenir écrivain, il était très inquiet. Très inquiet, parce que pour lui, ce n'était pas vraiment un métier, vivre de sa plume, c'était très aléatoire.
Il écrivait lui-même, hélas, d'ailleurs.
Oui, lui avait tenté d'écrire des livres qui n'avaient jamais été publiés, pour ainsi dire, ou dans des conditions
tellement misérables. Il était journaliste.
Il avait été journaliste avant la guerre, puis il avait arrêté pour cause à la fin de la guerre, il avait tout perdu, il a été reparti comme responsable de relations publiques. Et donc, lui, au fond, ce qu'il rassurait, mon père, ou qui pouvait théoriquement le rassurer dans ma carrière, c'était... Non, pas tellement un grand prix littéraire, parce que les grands prix littéraires, c'est aléatoire. On peut avoir le Goncourt, le grand prix du roman de l'Académie française, n'importe quel prix, c'est très bien, on est très flatté, on vend un peu plus d'exemplaires, mais voilà. Et puis ça retombe le soufflet, si je puis dire, très peu de temps après. Pour lui, le symbole de la réussite absolue, inaccessible bien entendu, c'était l'Académie française. Parce que pour lui, c'était la consécration, c'était comme un maréchal, pour ce titre honorifique pour un militaire. Et toute sa vie, il n'arrêtait pas de me dire, et je n'en pouvais plus, quand tu seras à l'Académie française, ce qui ne serait tardé, je lui disais, papa, c'est pas drôle, arrête. Et puis, mon père est mort, malheureusement, en 1995. Et quelques années plus tard, en 2001 exactement, j'étais approché par certains amis, j'avais deux, trois amis, mais ce n'était pas naturellement deux, trois amis de l'Académie française, ça ne fait pas une élection. Mais malgré tout, le secrétaire perpétuel à l'époque, Hélène Carré-Dancos, s'est approché de moi et m'a dit que certaines personnes de l'Académie pensaient à moi et si je voulais me présenter. Et je me suis présenté et j'ai pensé à mon père. Et je me suis dit, bon, je serai peut-être élu, je serai peut-être battu, on verra bien. Mais ce n'était pas le seul mobile, bien entendu, il ne faut pas être hypocrite, mais ça a joué considérablement.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'Académie française? Par exemple, Dutour me disait que ça protégeait les loups comme lui qui n'ont pas envie d'être attaqués. Et ça, c'est une certaine protection, l'Académie, autant qu'un honneur.
C'est une question à laquelle je tente de répondre depuis que j'étais élu, donc fin 2001, et je n'ai pas vraiment de réponse. Parce que par certains côtés, dans la vie d'un écrivain, on pourrait dire, de manière brutale, ça ne change rien. L'Académie française ne fait pas vendre un livre de plus, n'oriente pas l'écrivain dans une manière d'écrire plus académique ou non. Il est ce qu'il est, il écrit les livres les moins mauvais ou les meilleurs qu'il peut. Donc, d'une certaine manière, ça ne change rien pour un écrivain. Mais ce qui change, me semble-t-il, considérablement, c'est moins l'écrivain dans ses activités professionnelles d'écrivain. Je suis journaliste, critique, etc. aussi, ça ne modifie pas grand-chose. Ce qui change énormément, c'est le regard que les gens ont sur vous. Alors là, ça change. C'est-à-dire, les gens vous cataloguent, à tort ou à raison. Ça peut être positif ou négatif. Ça peut être.
Et pour vous, c'est agréable ou pas?
C'est, je dirais, par certains côtés, rassurant.
Voilà, comme Dutour.
C'est rassurant. Ça me donne pas de protection. Je suis pas. Enfin, je veux pas dire que mes confrères le sont, bien entendu. Mais je pourrais dire que si j'avais des mœurs inavouables, je pourrais dire si je suis raflé par la police, ça me protège. Non, pas du tout. Simplement, les gens disent ah bah tiens, oui, de l'Académie française, c'est une étiquette. Et les gens aiment bien les étiquettes. Donc c'est quelque chose d'un peu de rassurant. Est-ce que ça me rassure par rapport aux angoisses que j'ai, que tout le monde a par rapport à ce qu'il écrit? Parce que le doute me paraît très fondateur et on est toujours écrasé de doutes. Est-ce que je ne suis pas une imposture? Est-ce que mes livres se tiennent? Est-ce qu'ils continueront à être lisibles? Est-ce que j'ai réussi certains livres, même si je sais que j'en ai raté d'autres? Est-ce que le fait de dire « je suis de l'Académie française » me donne un statut et donc me rassure en me disant « bah non, si je suis de l'Académie française, donc je suis un bon écrivain ». Modérément. Je crois que quand on est angoissé comme je le suis, on continue à l'être. La protection anti-angoisse existentielle, je dirais, de l'Académie, est modeste. Maintenant, ce qui change, d'abord, c'est qu'un jour par semaine, je vais à l'Académie, et comme je fais partie plus précisément de la commission du dictionnaire, je peux dire que je consacre un jour entier à l'Académie, que ce travail que je fais, je trouve ça formidable. Ce travail sur les mots, ce travail sur les prix, bien sûr, sur tout l'encouragement à la littérature, avec tous les prix que de l'Académie française, c'est très utile, mais que cette gratitude que je dois à la langue française qui me fait vivre, je suis content modestement d'essayer de lui rendre ce que j'ai donné en travaillant à l'Académie. Et ça, je trouve ça un travail formidable. Et la deuxième chose, c'est que c'est un formidable lieu d'amitié. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Me dire jusqu'à la fin de ma vie, je suis protégé par un petit cercle d'amis, de gens que j'admire profondément pour l'essentiel et qui sont des gens de qualité avec qui je suis, c'est formidable.
Alors Frédéric Vitou, on va revenir dans quelques minutes pour cet habit vert avec vous.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'olivier, Platon et le platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce dans l'émission Focus sur Canal Académie.
Alors Frédéric Vitou, nous continuons cet habit vert avec vous et vous parliez de la commission du dictionnaire sur les mots. Est-ce que vous-même, vous avez découvert des mots? Est-ce qu'il y a une aventure des mots de l'académicien? Est-ce que vous découvrez tout d'un coup des mots en vous disant « mais ce mot est très intéressant » ?
Ah oui, bien sûr. Non seulement je découvre des mots, mais c'est un petit jeu entre mon épouse et moi. C'est que chaque fois que je reviens un jeudi de l'Académie française, je lui fais cadeau d'un mot ou d'une subtilité grammaticale que j'ignorais.
Et alors?
Alors, c'est un...
Lequel elle préfère, d'abord? Lequel a-t-elle préféré?
Écoutez, l'un de ceux que je préfère et que j'ai réussi à la persuader d'aimer, par exemple, c'est le mot paragouante. Alors, c'est un mot... À l'Académie, on se pose très souvent la question, quand il y a des mots un peu oubliés, des mots anciens, de dire, est-ce qu'on le maintient ou non? Un mot qui est sorti de l'usage courant. Et la réponse, en général, pour le dictionnaire de l'Académie, c'est de dire, on maintient un mot vieilli, en signalant naturellement qu'il est vieilli, lorsqu'il y a des occurrences dans la littérature française. Car naturellement, le sens d'un dictionnaire, c'est plus de chercher des mots rares quand on lit Victor Hugo ou Corneille que de chercher le sens du mot maison ou garçon ou fille. Bon, et là, paragouante, on l'a gardé parce que dans Molière, dans Victor Hugo, il y a des occurrences du mot paragouante.
Et ça veut dire?
Alors paragouante, ça veut dire au fond gage, service, paiement, donné à quelqu'un, en général dans un but inavouable. ça vient de l'espagnol dar para guantes, donner pour les gants. Pourquoi pour les gants, je ne sais pas. Et c'était en général, il y a un alexandrin, je crois, de Victor Hugo qui dit « Pour quelque paraguante, il vous tuera son homme ». Ça veut dire pour quel, un peu d'argent, pour quelque argent, ce mauvais drôle sera capable d'être un tueur à gages.
Pour le prix des nefles, quoi.
Voilà.
Oui.
Mais on ne dirait pas, par exemple, bien sûr, si je vais dans un café, est-ce que le paraguante est compris, est-ce que le service est compris. Mais paraguante, c'est vraiment l'argent que l'on donne à quelqu'un pour accomplir en général
un mauvais coup. Quel drôle de mot à offrir à sa femme.
Ah oui, mais je trouve assez joli paraguante, justement.
Bon.
Je pourrais vous donner d'autres mots, pâtiro, ou des choses comme ça, ou alors des choses...
Vous êtes à la lettre P, hein
Oui, enfin, on est entre la commission du dictionnaire et le travail du dictionnaire moins rigoureux fait en commission générale, enfin en assemblée de tous les académiciens, ça varie entre R et P, oui. Alors ça m'amuse beaucoup et je note soigneusement tous les mots que je découvre, car travailler un dictionnaire, c'est non seulement apporter effectivement ses connaissances, mais c'est aussi apprendre soi-même beaucoup. Et ce qui est très curieux, c'est que chacun d'entre nous a ses spécialités. Bizarrement, à la commission du dictionnaire, je ne sais pas pourquoi, est-ce que parce que j'aime ces disciplines, mais on me considère comme le spécialiste du sport. Alors, chaque fois qu'il y a un terme sportif, on me demande est-ce que c'est la bonne définition, est-ce que c'est
parce que vous montez à vélo.
Parce que je monte à vélo.
Je le sais en ce jour de grève.
Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de sport, parce que j'adore ça, j'ai joué au rugby, parce que je pratique certains sports et que ça m'intéresse.
Alors, votre épée d'académicien, qu'est-ce qu'il y a dessus ?
Alors, vous savez que pour les épées d'académicien, il y a deux écoles d'abord. Il y a les épées qui sont faites par les académiciens et qui sont conçues avec des orfèvres qui conçoivent une épée et qui est saturée de symboles. Il y en a des magnifiques, celle de Jean Cocteau, etc. Et puis, il y a une deuxième école que je préfère pour ma part, que beaucoup d'académiciens, d'ailleurs, adoptent, c'est l'épée, la vraie épée, l'épée historique, l'épée ancienne, l'épée d'antiquaire, une vraie épée avec un poids d'histoire. C'est la solution que j'ai préférée. Et j'ai trouvé une épée sur laquelle, je vais revenir à votre question, j'ai fait graver quand même des choses personnelles. Et il se trouve que on a parlé de l'île Saint-Louis, que j'aime beaucoup, j'ai un autre lieu, ou un autre pays, ou un autre territoire d'enchantement, qui est presque une seconde patrie pour moi, c'est l'Italie. J'adore l'Italie, j'y vais chaque année. Venise est...
D'ailleurs, vous avez écrit, disons-le, fin de saison au Palazzo Pedrotti, Villa Semiramis, etc.
Oui, j'ai écrit une trilogie romanesque qui commençait par Charles et Camille, la comédie Terracina qui avait eu le grand prix du roman de l'Académie française, Esther et le diplomate, qui étaient trois romans qui se passaient en Italie à la jonction, disons, de la fin du XVIIIe et de l'épopée napoléonienne et de la Restauration. J'ai écrit donc trois romans qui évoque cette période-là, dont un roman qui m'est cher, ne serait-ce parce que c'est peut-être le roman qui m'a fait connaître de ce qui seraient mes nouveaux confrères académiciens, qui était un livre qui s'appelait La Comédie de Terracina, qui était l'histoire un peu rêvée la rencontre entre Rossini et Stendhal dans cette ville frontière entre Rome et Naples en 1816. Et j'ai trouvé précisément un jour une épée d'uniforme, une épée d'apparat, si je veux dire, qui était une épée ayant appartenu à quelqu'un qui aurait pu être le héros de mon livre, qui est d'ailleurs une épée de Naples, une épée napolitaine du royaume de Naples au moment de Murat. C'est-à-dire qui a appartenu à un officier général français du royaume de Naples sous Murat, puisqu'on reconnaît le cheval cabré qui est le symbole du royaume de Naples, les aigles impériales sur la garde de l'épée, avec un lion qui surmontait
le signe du zodiaque.
Donc c'était, pour moi, c'était formidable d'avoir une épée qui aurait pu appartenir à un de mes personnages. Alors qu'est-ce que j'ai fait graver dessus ? J'ai fait graver dessus la devise de l'île Saint-Louis, telle que mon grand-père, qui habitait déjà l'île Saint-Louis, puisque ma famille habite l'appartement que j'occupe depuis 1906. Et mon grand-père avait, avec quelques amis, qui étaient un littéraire, un lettré, avait proclamé un jour l'indépendance de l'île Saint-Louis en 1924 avec des amis, avait fait un journal somptueux. Et il avait fait comme devise pour l'île Saint-Louis, Phébo altera Delos, pour Phébus, une autre Delos, pour montrer que l'île Saint-Louis était...
Pour Phébus, c'est-à-dire le dieu du soleil, une autre Delos.
Delos, là où il est né, en
l'île,
principe, Phébus.
L'île de Delos, voilà.
Et donc que l'île Saint-Louis aurait été digne d'être la patrie d'Apollon, en quelque sorte.
Redites-moi plus lentement, alors Phébo...
Phébo altera Delos, une autre Delos pour Phébus. Voilà.
Oui.
Alors c'était cette devise de l'île Saint-Louis qui figurait sur un journal qui était paru à l'époque pendant un an et demi, qui était une magnifique publication avec des gravures sur bois, en couleur. C'était formidable. C'est très recherché par certains bibliophiles aujourd'hui, cette collection du sémaphore de l'île Saint-Louis, qui était exceptionnelle. Et donc, c'était là, on retrouvait cette devise de l'île Saint-Louis, Phoebo altera Delos, pour Phoebus une autre Delos, donc une autre patrie pour le roi.
Donc pour, et donc, pour votre patrie, pour le Phoebus voilà. que vous êtes, donc c'était voilà, la patrie exactement. De l'Académie.
Voilà, et donc j'ai gravé ça, et donc cette gravure, j'ai cette épée italienne et en même temps impériale.
Alors, remarquez, ça nous ramène au début, si je puis dire, c'est-à-dire à votre élection, puisque vous avez succédé au cher Jacques Laurent.
Oui.
Qui lui aussi était un amoureux de l'Italie et de Stendhal surtout,
bien sûr, grand
Stendhalien,
bien sûr.
Auquel vous rendez un hommage d'ailleurs très, très touchant, puisque aussi vous l'avez connu de son vivant, et que ça doit être un peu bizarre de s'asseoir sur le siège sur lequel un vieil ami, si on peut dire, s'était déjà assis, non ?
Oui, en fait, j'ai une grande reconnaissance envers Jacques Laurent, car très curieusement, mon premier roman, qui était paru en 1973 chez Gallimard, avait
été couronné, s'appelait
Carte Postale, et il avait été couronné à l'époque par un prix qui s'appelait le prix des quatre jurys, parce que j'avais eu quelqu'un qui avait beaucoup aimé ce livre, qui s'était battu pour le prix Goncourt, c'était Raymond Queneau.
Oui.
Et donc, à ce titre, ayant eu la voix de Queneau au Goncourt, je pouvais concourir, si j'ose dire, à un prix qui s'appelait le prix des quatre jurys, qui était à l'époque une sorte de prix de rattrapage des grands prix littéraires. Et j'avais eu ce prix pour mon premier roman. Et parmi les membres du jury de ce prix, il y avait Jacques Laurent. Et donc, ce prix m'avait été remis, je me souviens, à Marrakech, puisque c'est le roi du Maroc qui était l'un des mécènes du prix. Moi, je ne connaissais pas du tout le monde littéraire, que je découvrais totalement. Et on peut dire que la première personne qui m'ait vraiment ouvert les bras, salué, c'était Jacques Laurent. Et je me souviens très bien, je découvrais un peu émerveillé ce monde littéraire, étranger, fascinant.
Et vous racontez très bien d'ailleurs comment il vous a fait aussi découvrir l'histoire, comment il vous a fait, au fond, percevoir déjà pour la première fois ce qu'a pu être l'histoire assez douloureuse et le secret de votre père.
Oui, voilà. Parce que bon, le secret de mon père, il ne faut pas exagérer, parce que mon père n'était pas un secret,
mais
c'était un silence.
Le secret que vous a demandé de tenir votre mère,
voilà.
Voilà, exactement.
C'était simplement que mon père a été arrêté à la Libération, mon père était journaliste dans un journal qui s'appelait Le Petit Parisien, qui était un journal qui travaillait naturellement pendant la guerre sous le contrôle de la censure allemande, et que donc mon père, en tant que journaliste dans ce journal pétainiste, et donc on pourrait dire objectivement collaborateur, a été inquiété à la Libération, dénoncé, arrêté au moment où je suis né. Moi, je suis né le 19 août 44, je suis né en province pour des raisons multiples, et mon père est venu me voir pour la première fois 8 jours après, et il a été dénoncé, arrêté immédiatement, et je ne l'ai revu que 3 ans et demi après.
Et c'est à Clairvaux, je crois, qu'il a connu Christian de Lamazière,
voilà,
qui est le
voilà.
héros de l'un de vos livres.
Voilà, et quand j'étais petit, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, en vacances, je voyais arriver parfois dans une voiture une voiture italienne décapotable, un homme très playboy et qui était un ami de mon père et dont j'ai compris par la suite que c'était quelqu'un qui avait été en prison avec mon père, qui s'appelait Christian de Lamazière, qui était un homme qui travaillait dans le cinéma, qui était l'amant de Juliette Gréco, qui après a été l'impresario et l'amant de Dalida.
Il lui a pris Teilhard de Chardin, m'a-t-il raconté.
Ah bon? Et alors, ça me semblait incroyable que mon père, assez bourgeois, si je puis dire, connaissent quelqu'un qui était l'impresario de Dalida et l'amant de...
Ça me semblait... Ça vous a beaucoup plus frappé, finalement, que le reste.
Évidemment. Oui. Et c'est seulement... voilà. Et comme mon père ne parlait pas du tout de son passé et des épreuves qu'il avait connues, c'était une sorte de non-dit dans la famille. On savait, mon père disait souvent en boutade, quand j'étais en pension aux frais du gouvernement, c'était une manière pour lui d'évacuer, jamais se plaindre, jamais l'évoquer de manière pleurnicharde ni revendicatrice.
Est-ce que ça vous a rapproché d'autres journalistes? Parce que maintenant, on a la littérature des fils, évidemment, c'est-à-dire, par exemple, Jardin, différemment. Par exemple,
Dominique Jamais.
Bien sûr,
aussi Marie Chex,
qui a écrit un très beau livre, oui.
Oui, il y avait Marie Chex aussi, qui a écrit un livre sur son père,
voilà. Est-ce qu'il y a une espèce de fraternité, finalement, de quelque chose de troublant? Pas de trouble, mais de troublant quand même. Ça doit être troublant, je suppose. Ou pas du tout?
Je crois pas. Oui. Très franchement, je ne crois pas. Parce que, disons que tous les, pas plus ou moins, tous les écrivains évoquent à un moment donné ou à un autre leur père. Bien entendu, le rêve d'un fils, c'est d'écrire « Mon père, ce héros ». Au sourire si doux, et on peut continuer.
Bah, vous l'écrivez un peu, ce qui est touchant d'ailleurs.
Mais une fois tout le monde n'a pas la chance de pouvoir écrire « Mon père, ce héros », il y a vis-à-vis du passé, vis-à-vis des épreuves du passé, plusieurs attitudes possibles. Il y a l'attitude revendicatrice, dure, violente. Comment mon père a-t-il pu être un salaud pareil? Bon. Et puis d'essayer de s'en dépêtrer. Bon. c'est pas pour ma part le regard que j'ai. Je pense qu'il y avait des bons choix et des mauvais choix à faire, des engagements courageux, des engagements plus convenus. J'ai toujours aimé mon père et je n'ai jamais eu le sentiment que mon père avait été, enfin, au sens sartrien, un salaud. Je pense que mon père a eu tort, mais comment dire, le regard que j'ai est très différent précisément de celui d'un Dominique Jamet ou d'une Marie Chette qui ont écrit des beaux livres, des livres nécessaires, des livres qui étaient des livres assez violents, assez durs, assez âpres.
Mais tendres aussi, terrible. Il y avait une tendresse.
Tendre et très, quand même, en même temps, très... Je ne sais pas. Moi, c'était au fond de me dire « j'ai pas vécu ces combats-là ». Je sais aujourd'hui, avec le recul, qu'il y avait des engagements qui étaient nécessaires, des engagements qui étaient douteux et même condamnables. Mais je ne me sens pas en position de donneur de leçons des combats que je n'ai pas menés.
D'ailleurs, dans vos livres...
C'est un peu ce sentiment-là. Et puis de dire, bien sûr, attendez, il y a objectivement dans l'histoire des salauds. Il y a des délateurs, il y a des gens qui sont des criminels. Mais je ne parle pas de criminels, je parle du délit d'opinion, en quelque sorte. Et je me dis, bon, qu'est-ce que j'aurais été si j'avais vécu en 40? Qu'est-ce que j'aurais été? Est-ce que j'aurais été un héros de la résistance? Est-ce que j'aurais été un planqué? Est-ce que j'aurais été un parvenu? Est-ce que j'aurais été un opportuniste?
D'ailleurs, ça donne, ce genre de questions donne justement une certaine douceur à vos livres, si je puis dire. Quand on lit vos livres, il y a une certaine, quelqu'un, Montetti, je crois, dit que c'est parle de charme.
Oui.
Il a écrit un jour que de vos livres se dégage une disposition à être nostalgique, un brin bougon. Et non dénué de charme. Et en effet, vos titres, d'abord, sont gracieux, si je puis dire, mais au bon sens du mot. On a dit un film avec elle, des dahlias rouges et mauves, etc. Est-ce que c'est une manière de, justement, de faire le pari de l'atemporel ou de l'immortalité, puisque vous êtes académicien? Est-ce que c'est une sorte de choix, de choix même peut-être inconscient? Littéraire.
S'il est inconscient, je parlerai pas de choix, donc, mais bien entendu. Mais en effet, il y a des écrivains de la violence, de l'âpreté. Et souvent, une question qui m'est souvent posée, ou que je me pose plutôt souvent, c'est mais comment peux-tu aimer, ou être intéressé à l'une des plus grandes voix du XXe siècle, qui est Céline, qui est l'une des voix les plus puissantes,
les plus tonitruantes.
Vous
savez ce que Malraux disait? Il disait ce type-là qui a un bagout de chauffeur de taxi.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'était aussi pour attaquer les idées, les idées affligeantes, aberrantes, monstrueuses de Céline, son antisémitisme caractériel et impardonnable. Et il disait, au fond, il a les idées d'un chauffeur de taxi. Bon, c'est vrai. Mais je parle de la violence, je veux dire, de la sentiment, de la d'écrasement par la vie, de révolte d'un homme qui hurle devant la souffrance, devant la violence du monde. Et on me dit, mais comment peux-tu aimer un écrivain aussi dur, alors que tu es plutôt un écrivain, en effet, oui, j'aime bien le mot de douceur, mélancolie peut-être, moi je suis quelqu'un qui...
Oui, je vous trouve plus doux que mélancolique, mais enfin ça c'est personnel.
Oui, peut-être. Si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui, en tant qu'écrivain, aime bien faire un pas de côté et me retourner et regarder ce qui était derrière moi. Et puis... J'ai d'autres livres où, en même temps, j'ai une activité journalistique qui me permet de m'ancrer dans le présent et de vivre pleinement le présent. Donc, cette mélancolie me convient assez bien. Je pense que le chuchotement est parfois plus persuasif que la vocifération. Je pense que, comme disait Hoffmann Stahl, il disait « il faut cacher la profondeur ou ça à la surface ». Et je pense que si l'on arrive à avoir... à faire effleurer à la surface les choses, c'est celle-là, c'est là où est la vraie profondeur. Je pense que les écrivains profonds qui revendiquent une certaine forme de profondeur sont des écrivains qui me sont totalement étrangers. Je crois profondément que seule la bêtise est profonde.
Vraiment. Elle est, vous savez, c'est les deux choses les plus insondables, Dieu et la bêtise.
Voilà.
Bref, vous tournez le dos à la bêtise humaine.
Disons que je suis parfois, et ça c'est une fascination que beaucoup d'écrivains ont éprouvée, bien sûr, Flaubert et les autres, mais je suis parfois effrayé par la profondeur de la bêtise. Et il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de sensibilité et de modestie aussi, par d'un côté, pour arriver à faire... affleurer sans heurts les choses. Comment dire, la suggestion est toujours plus forte que le cri.
C'est, Oui, je crois que c'est vous qui citez Jules Renard qui dit que déjà arriver à la fausse modestie, c'est déjà bien.
Oui, oui, la fausse modestie, c'est déjà très bien. Non, non, mais je pense profondément que, si vous voulez, et j'ai parlé de Céline. Alors, il y a une leçon que j'ai tirée de Céline. C'est que Céline est en effet l'écrivain, par certains côtés, le plus noir, le plus maudit, le plus écrasé par la vie. Et heureusement que j'ai Stendhal d'un autre côté. Heureusement que j'ai le soleil, que j'ai la Méditerranée, que j'ai un désir du bonheur que Stendhal a et que, au XXe siècle, un autre écrivain que j'aime profondément a éprouvé de manière, dans une sorte de postérité stendhalienne, c'est Jean Giono. Heureusement que je les ai, ces écrivains-là, pour faire le contrepoids au cauchemar célinien. Mais chez Céline, au-delà de la lourdeur de Céline, il y a quelque chose qui me touche beaucoup comme une leçon, c'est que Céline est un écrivain aussi de la dentelle, du silence et de la retenue. Curieusement, les plus grandes trouvailles de Céline, c'est pas une accumulation verbale comme certains sous-céliniens veulent le faire croire. C'est de se dire que le style, c'est retirer les mots inutiles. C'est le travail du sculpteur qui retire peu à peu la matière inutile pour faire dégager la forme. Si l'on prend simplement, on parlait de mes titres, un titre de Céline, une trouvaille idiote, minuscule, rien du tout, mais qui est du génie. Quand il écrit un de ses livres, d'un château à l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime simplement le A. C'est idiot, c'est rien, cette petite trouvaille minuscule de supprimer le A de quelque chose à l'autre. Et d'un seul coup, cette simple suppression du A crée une vitesse, une dynamique, une invention lexicale d'un château à l'autre, paf, sans transition, cut, comme on dit au cinéma, on monte comme sans fondu, sans rien. Et c'était tellement évident comme trouvaille que depuis, il a fait école. Et très souvent, maintenant, on dit de quelque chose l'autre. Mais c'est Céline qui l'a inventé. Et c'est ça le style. Le style, c'est parfois de retirer quelque chose. Et cette notion d'économie dans la forme, c'est une leçon que j'ai tirée de Céline. Alors, chez Céline, bien sûr, il y a en même temps la puissance vocale, si j'ose dire. Et moi, c'est pas mon cas. Mais ce sens de l'économie du langage, de la retenue, de dire le silence est toujours plus fort que le bruit, c'est vraiment une leçon esthétique et peut-être aussi presque éthique.
Alors Frédéric Vitou, merci de cette grande leçon de style. Est-ce qu'on peut vous demander le titre de votre livre que vous allez sortir?
Alors oui.
Sur le chat, le dictionnaire amoureux des chats.
Le dictionnaire amoureux des chats va sortir probablement fin septembre, début octobre, donc 2008. Mais auparavant, en janvier, je sortirai un livre, et justement un livre très personnel, qui n'est pas, on pourrait appeler ça un récit pour dire vite, qui est un livre que j'en ai écrit très peu jusqu'à présent, qui est un livre à la première personne, sans même fiction romanesque, qui est un portrait d'une femme, et d'une femme qui a compté énormément dans ma vie et dans la vie de mes parents. Et c'est un livre que j'avais besoin d'écrire, que j'ai commencé à écrire à 30 ans. Vous voyez, il faut être très patient pour écrire. J'ai commencé ce livre en 1983, 25 ans.
Et il va sortir bientôt.
Et il va sortir en janvier.
Très bien, merci Frédéric Vitou. C'était donc L'Habit Vert avec Frédéric Vitou. À bientôt.